Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est parti pour la deuxième tranche de cette émission. Nous allons parler à présent du phénomène école fictive en République démocratique du Congo. Comment lutter contre cela? Eh bien, nous aurons tout à l'heure Jean Bosco Pounas, secrétaire général du CINECAT, Tony Mouaba, député national, Maître Godé Kayembe, président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des élèves, des enfants et élèves. Lisadel sera également de la partie, ainsi que Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEPT RDC. Des questions et préoccupations, eh bien, appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiokapi.net. Fidèles auditeurs, merci merci à ceux-là qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des révélations sur l'existence des écoles fictives en RDC ne cessent de défrayer la chronique. Presque tous les ans, des centaines d'écoles fictives sont créées à Kinshasa et dans les autres provinces, de nombreuses écoles en tout cas. La fraude est devenue massive dans les secteurs éducationnels de la RDC depuis la mise en place de la gratuité et de l'enseignement, d'après nos sources. Des fonds sont décaissés régulièrement du trésor public pour le fonctionnement des écoles et les salaires des enseignants imaginaires qui n'existent même pas, mais l'argent sort régulièrement d'après nos sources. Alors, comment lutter efficacement contre cette fraude massive dans le secteur de l'enseignement, des écoles imaginaires, des enseignants qui n'existent pas? Et puis, ben voilà, chaque fois sur les listes des pays, les noms sont là et l'argent sort régulièrement. Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Vous pouvez réagir, laissez-nous votre commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Merci déjà à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook de l'émission Okapi Service par rapport à cette thématique. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de lire vos réactions. N'hésitez pas de réagir par rapport à ce sujet. Je m'en vais déjà lire, je vais lire quelques réactions des internautes par rapport à cela. Maître Augustin Chilombo, depuis le territoire de Loulou, dans la province de la Lomami. À mon avis, pour mettre fin à ces phénomènes, écoles et enseignants fictifs en RDC, il est mieux de savoir que dit la loi, notamment la loi cadre de l'enseignement national dans ses articles 39 et 40, qui parle de la création des établissements publics d'enseignement qui relèvent de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Cette création des établissements publics d'enseignement, bien sûr, est sanctionnée par l'arrêté du ministre de l'EPST ou du gouverneur des provinces. Alors, on comprend facilement qu'une école qui existe sans l'acte juridique signé par ces deux autorités effectives. Donc, un recensement des arrêtés au niveau central que provincial mettra fin à ces phénomènes écoles et enseignants fictifs, car je pense qu'aucun arrêté n'a été signé pour la même école qui devrait être implantée six ou sept fois sur l'ensemble du pays ou dans la même province, mais dans les différentes divisions, à moins que ça soit un désordre. Voilà. C'était là la réaction d'Augustin Chilombo depuis les territoires de Loulou. Ali Tito Chiala, depuis Louisa au Kassai Central, pour lutter contre ces phénomènes, il faut faire un contrôle général de tous les arrêtés et les lettres d'implantation. Une école n'ayant pas des actes, des documents effectifs, un contrôle physique général dans tous les établissements, de tous les enseignants et agents en présentant les pièces qui prouvent à suffisance que c'est un enseignant ou un agent est important. Et puis, ce contrôle doit être fait régulièrement chaque mois. Vérifier les listings des payes, tout ça, etc. Voilà, c'est la réaction d'Ali Tito Chiala. depuis Louisa au Kasaï central. Bien, nous allons accueillir notre invité, Monsieur Jacques Tshimbalanga. Il est coordonnateur national du CONEPT. Le CONEPT, c'est la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Jacques Tshimbalanga, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jeudi.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces phénomènes écoles fictives et des écoles et enseignants fictifs?
Ben, les écoles et enseignants fictifs, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'aujourd'hui et bon, voilà. Écoutez, c'est un phénomène qui a pris corps dans le système et qu'on a laissé jusqu'à faire gâter le système, jusqu'à faire pourrir la situation.
Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle qu'en 2013, la coalition menait une enquête sur sur les écoles, bien entendu, sur le au niveau du préscolaire. Mmh. Nous avons demandé la cartographie au niveau du ministère, on nous a donné et on devait enquêter au niveau de la commune de Ndjili. Les écoles du préscolaire, ça veut dire maternelle. Mais le résultat, c'était que nous avions sur nous des listes où il y avait des adresses d'écoles, mais à des endroits précis où on disait qu'il y avait une école.
Mais
c'était plutôt
une
habitation.
Quand vous y allez là-bas, il n'y a pas une école.
Il n'y avait pas d'école, il y avait plutôt une habitation et les gens des environs disaient ne pas connaître. Donc, ça, j'ai dit, ça, c'est un exemple que nous-mêmes, nous avons vécu il y a...
Ici même à Kinshasa,
à Kinshasa, et c'était au niveau du préscolaire. Et bon, voilà. Et donc, ça n'étonnerait pas qu'aujourd'hui, on parle des écoles fictives, ou même des enseignants, et même des enseignants fictifs, des classes même fictives. C'est en fait là.
Et l'argent sort régulièrement du trésor public pour le fonctionnement de ces écoles-là.
L'argent sort pour le fonctionnement de ces écoles. L'argent sort pour payer les enseignants qui sont censés travailler dans ces écoles-là. Ben, on se poserait la question, ben, comment cela peut arriver? Et c'est justement pour ça que je dis que bon, voilà, pour nous, en tout cas, notre conviction est que, concernant les écoles fictives, concernant les enseignants fictifs, il n'y a pas que les administratifs qui peuvent être dedans, même les banques sont concernées.
Donc c'est une grosse...
Les banques payeuses doivent être concernées.
Doivent être poursuivies.
En principe,
donc c'est une grosse...
En principe, si l'on creuse plus loin,
oui.
Je ne vois pas comment. Même des gens qui ont les listes là, qui élaborent des listes, comment ils pourront retirer l'argent sans la complicité des banques?
Mais si on présente des noms régulièrement, on sait qu'il y a telle école, école Mafuta, école ceci,
mais c'est justement ce qu'il faut savoir. Je crois donc que les enquêtes doivent aller encore plus loin. Aujourd'hui, on parle encore, il y a pas longtemps, on vient de parler encore de notre scandale à Lomami. À Lomami, où on a découvert plus de 100 écoles fictives, et j'apprends même qu'il y a un procès qui devrait s'ouvrir.
Plus de 100 écoles 100 fictives.
Écoles fictives. Donc vous comprenez que le système a pris, plutôt le phénomène a pris ancrage dans le système, et il faut véritablement le déboulonner si l'on veut sauver des milliers d'enseignants qui travaillent sans être payés. Il y en a beaucoup.
Il y a les NU, il y en a beaucoup qui n'ont pas été mécanisés depuis de longues années.
Depuis de longues années, ils n'ont pas été mécanisés et ils n'ont pas été payés. Parce qu'ils peuvent avoir été mécanisés, mais ils ne sont pas payés. Mmh. Et donc, voilà. Et ces gens-là, il y en a. Les gens, on sort de l'argent pour payer des gens qui n'existent pas. On sort de l'argent pour payer des gens qui, en réalité, font de la pêche. On sort de l'argent pour payer des gens qui, en réalité, travaillent autre part que dans une école. Et bon, voilà. C'est tout ça le problème dans le système. Et donc, il y a une telle gabegie.
Donc, il y a une mafia bien organisée.
Une mafia très, très bien organisé qu'il faut déficeler, qu'il faut véritablement déficeler pour essayer de remettre de l'ordre. Et je crois, pour nous, nous croyons que le travail doit encore être fait en profondeur. C'est comme ça que j'en appelle personnellement et nous, notre coalition, nous en appelons à une enquête indépendante pour corriger ce système-là. Pour arriver à corriger, il faut absolument que des gens non intéressés puisse se mettre dessus.
Il semble que certaines écoles conventionnées qui sont en convention avec l'État se retrouvent dans ces genres de situations.
Mais ça ne peut qu'être cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, les écoles publiques, les conventionnées, ça veut dire les confessions religieuses qui gèrent les écoles, elles gèrent 70%, au moins environ 70% d'écoles publiques. Donc la majorité d'écoles publiques qu'il y a dans ce pays est gérée par les confessions religieuses. Donc on ne va pas nous dire que tous les fictifs qu'il y a sortent des écoles non conventionnées, non. Eh bien, écoutez, la mafia s'est éparpillée, ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne, donc même la soutane n'a pas été épargnée.
La mafia n'épargne personne.
Ah oui.
Bien. On va accueillir M. Godé Kayembe, président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL en sigle. M. Godé Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Bien, bienvenue dans cette émission qui s'intéresse au phénomène école fictive. D'après vous, qu'est-ce qui aurait favorisé cette situation?
Non, moi je crois que c'est un phénomène qui a commencé longtemps, c'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Vous vous rappelez que lorsque nous sommes ici intervenus la fois dernière, je vous dis que j'étais en réunion avec déjà le ministre Macaire, et je lui dis, mais je ne peux pas comprendre comment, pendant qu'il n'y a pas d'investissement, nous avons un budget de 1%, et que l'effectif enseignant, qui était de 170 000 enseignants en 84, aujourd'hui, peut aller jusqu'à 150 000. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas d'investissement, mais il y a plus d'enseignants que prévu? Alors, il fallait publier la cartographie. Déjà à l'époque, nous avons parlé avec ma mère. Lui-même était impliqué. Tout le monde qui passe par le ministère de l'Éducation est impliqué. Et connaît comment ça fonctionne. Il s'y retrouve. Donc, je crois que ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. C'est un vieux phénomène. Mais tout simplement, Dieu a fait grâce que nous ayons au moins un président qui est attentif, qui a mis en place, qui a diligenté l'enquête et qui nous amène à un résultat préliminaire. Et je crois que il appartient effectivement à l'État de pousser plus loin. Comme notre ami Jacques vient de dire, il n'y a pas de problème de trouver un auditeur international, mais je crois que cette question, on lève l'option qu'on doit auditer, on doit trouver les écoles en impliquant les services de sécurité, en impliquant les chefs coutumiers, en impliquant... Il faut qu'on publie la cartographie des écoles. Sur l'ensemble de la République, dans tel village, il y a une école, dans tel village, il y a une école, et les services de sécurité, les services de l'État, notamment l'administration publique, doivent identifier les écoles. À ce moment-là, on aura identifié, je crois que ce serait peut-être les trois quarts des écoles qui existent sont des fausses écoles. Comme Jacques l'a dit, si le prêtre aussi sont impliqués. Donc, en fait, la majorité des écoles sont gérées par des conventionnés. C'est tous ces conventionnés-là sont impliqués dans la mafia. Donc il faut aussi les interpeller. On ne doit pas continuer à s'acharner sur les directeurs. Mais même ceux qui sont complices doivent être interpellés. Y compris les évêques et les autres qui sont dans la mafia. On doit les interpeller pour répondre à ce qu'ils ont fait. La situation est très grave. Et vous allez constater que lorsqu'on va faire, on fera cet audit où on va impliquer les services de sécurité, on n'aura pas plus de trois quarts d'école qui existent.
On n'aura pas plus de trois quarts d'école.
Je ne pense pas. Beaucoup d'écoles sont sécurisées. Vous savez que c'est le système de... On a mis en place le système de Malmal, où on voit, on vous dit qu'il y a des écoles qui existent dans des coins où on ne peut pas y accéder. Et ce sont les écoles sécurisées qui sont majoritaires. Et il y a des écoles où il y a des écoles où il y avait un seul bon. On vous dit qu'il y a des bons pendant qu'il y a un seul bon. Et c'est ça qui s'est passé. On a multiplié les écoles pendant qu'il y a... C'est pas question. Il faut définir un terme de référence, bien réfléchir, vous allez vous rendre compte que 60% des écoles qui existent, qui sont payées, 60% des effectifs qui sont payés, qui sont des faux effectifs. Il faut voir ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des députés ont aussi des écoles à l'évasion. En dehors des écoles qu'on a identifiées, qui sont dans le système, qui sont identifiées par rapport au réseau.
Oui.
Mais il y a aussi des écoles qui sont dans les sacs des individus, dans les sacs des députés, dans les sacs
des
ministres.
Des écoles privées?
Oui, exactement, oui. Qui sont dans les sacs. Qui sont dans les sacs des anciens députés, au niveau des députés. En fait, c'est un réseau où l'État congolais perd beaucoup de millions. Beaucoup de millions, et tu vois, dans les sacs des individus. C'est connu.
Voilà, M. Jacques Timbaranga, l'État perd des millions dans cette mafia.
Absolument. Absolument. Des millions qu'on pouvait capitaliser pour investir, par exemple, dans la construction des infrastructures. Des millions qu'on pouvait capitaliser pour investir dans l'achat, la distribution des manuels scolaires pour améliorer la qualité. Des millions qu'on pouvait capitaliser dans la formation initiale et continue des enseignants afin d'assurer que nous ayons des enseignants qui répondent, bien entendu, aux normes. Ces millions-là sont dilapidés
dans
les poches des individus et qui ont commencé à amasser des lustres. Écoutez, vous savez que ça fait plus de 5 ans que, au niveau de notre coalition qui est un réseau, nous avons fait un rapport sur la double perception, par exemple, des frais en ce qui concerne l'examen d'État et le TENAFEP. Ça veut dire que l'État payait, mais il y avait aussi les ménages qui payaient. En réalité, l'argent payé par les ménages pouvait déjà combler tous les besoins que l'État avait. Mmh. Un rapport, ça fait plus de 5 ans qu'on dénonçait ce truc-là. Mais ça n'a rattrapé qu'aujourd'hui.
Et comment on est arrivé aujourd'hui à détecter tout cela? C'est avec l'affaire du CECOP
mais justement, c'est cela. En fait, les gens savaient.
Donc toute la magouille, la magouille était organisée au niveau du CECOP.
La magouille est organisée au niveau du CECOP, mais le CECOP n'est pas seul. Même au niveau... Parce qu'en fait, le CECOP, à un moment donné, organise, mais le CECOP aussi subit. Quand nous disons le CECOP organise, mais le CECOP aussi subit, c'est quoi en réalité? Il y a des mafias qui sont organisées également au niveau des réseaux d'écoles. Il y a aujourd'hui, par exemple, certains réseaux d'écoles conventionnées qui ont transformé des écoles privées en écoles publiques. Donc, des écoles sont privées, mais ils les ont prises sous la bannière de leur réseau pour en faire des écoles publiques. Et c'est l'État qui perd.
Et l'argent c'est l'État sort qui du perd. Trésor public.
Absolument.
Alors que ce sont des écoles privées.
Absolument. Et donc, tout ça, c'est des choses à remettre en l'ordre. C'est comme ça que nous disons, quand je parle d'une enquête indépendante, je ne parle pas d'un international qu'on recruterait pour ça. Je parle d'enquête indépendante, d'une enquête qui impliquerait véritablement les gens qui n'ont rien à voir avec le système, mais qui ont intérêt à ce que le système marche. Je ne crois pas que lorsque...
C'est l'IGF, est-ce qu'il revient à l'IGF de
L'IGF peut continuer, mais l'IGF peut se ramifier, l'IGF peut continuer le travail, bien entendu, mais l'IGF a également beaucoup d'autres travail à faire. Mais écoutez, aujourd'hui, quand on veut, par exemple, remédier à la situation, on prend les mêmes personnes qu'on est en train d'incriminer, qu'on envoie sur terrain. Pour essayer de... Évidemment, ils peuvent faire quelque chose, mais écoutez, je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'au bout.
Non,
pour nous aujourd'hui. Même si le CECOP fait un travail, ils vont faire leur travail administratif normal, mais je vois mal comment le CECOP peut être, par exemple aujourd'hui, à la tête de la mission qui doit recadrer les choses. Il faudrait absolument étendre cette mission-là, pas seulement aux syndicalistes, mais le CECOP fait toujours des missions avec les syndicalistes, ça fait toujours depuis des lustres, c'est toujours avec les syndicalistes qu'ils font ces missions-là.
Donc ils font, même et nous savons
qu'ils travaillent pour les enseignants, mais ça fait toujours avec les syndicalistes qui le font, et nous avons ces résultats-là. Et donc, si ce sont les mêmes personnes qui sont sur terrain, ben, ils vont faire un travail, mais nous ne croyons pas que ça sera un travail qui va être véritablement efficace. Il faut élargir à d'autres partenaires éducatifs qui ont intérêt à ce que les choses marchent sur terrain. Parce que nous pensons et nous croyons que le CECOP faire le même travail pour lequel il est incriminé, c'est être juge et partie et utiliser les mêmes partenaires avec lesquels vous avez toujours travaillé de connivence pour produire ce que vous produisez toujours. Et je crois qu'on est en train de faire la même chose. Oui. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir un résultat efficace, efficient. Évidemment, on va présenter un résultat, mais ça ne va pas être d'autre chose. Et d'autre part, je ne pense pas que c'est en une fois qu'on aura les résultats. Ça veut dire que cette mission parte, on revient avec les résultats, on s'arrête là, non. On se trompe.
Il faut
prendre le temps de pouvoir le faire. Mais la meilleure manière de faire, en réalité aussi, c'est de faire de l'identification biométrique des enseignants, dans leur poste de travail, de tous ceux qui sont dans les administrations scolaires, dans leur poste de travail, et couplé à cela la rationalisation. En fait, pourquoi nous avons aujourd'hui ce système qui est gâté? Nous avons ce système qui est gâté parce que nous avons connu des ministres, des autorités de l'administration qui ont signé des arrêtés, qui sont allés au-delà du cadre organique, une structure, une direction, une cellule, une division qui devait avoir 20 personnes, 30 personnes, on y a engagé 800 personnes.
Donc qui n'ont même pas de bureau. Même des ministres qui n'ont même,
ce sont eux qui signent des arrêtés. Oui. Ce sont eux qui signent des arrêtés, mais pour l'agrément des écoles, ils le signent. Hein, le CECOP présente, oui, mais c'est le ministre, ce sont les ministres qui signent. Et ils signent après que, Godet l'a dit, Kayembe l'a dit, mais aussi nos députés là, nationaux et provinciaux, ils ne nous rendent pas la tâche facile. Ce sont eux aussi qui sont tout le temps dans les couloirs du ministère avec des fardes. Ils ont des écoles dans leurs fardes, dans leur sac. Ils en ont. Des écoles qui n'existent pas. Moi, j'ai vécu cela personnellement à Louisa.
Un député.
Mais je vous dis.
Une école fictive et l'argent sort pour cette école-là.
L'argent sort. Ça veut dire que tout le monde veut avoir des écoles dans sa poche, dans son village, dans son quartier, pour qu'on dise non, voilà, il a fait quelque chose pour aller entretenir l'électorat. Oui. Mais en réalité, c'est cela. Mais aussi les confessions religieuses. Avec cette histoire de prise en charge des enseignants par les parents, ils ont créé des écoles, des classes qui n'étaient pas reconnues. Ils ont créé des classes qui, une école qui était autorisée à faire fonctionner 12 classes, ils ont créé 18 classes, ils ont engagé, ils ont donné des commissions d'affectation. Maintenant, quand vient cette histoire de gratuité, tout ce monde-là n'a pas de place et il faut qu'ils soient pris en charge par l'État. Mais en fait, ils ont engagé des nièces, des niécettes, des cousins, des cousinettes. Eh bien voilà, on en est là. Et ils ont posé des problèmes terribles à l'État pour qu'on en arrive là. Maintenant, il faut résoudre la situation. Il faut véritablement résoudre la situation.
Un instant, Jacques, on va accueillir des auditeurs. Ali Tito Chialan de Louisa et Jérémy Mwamba de Lumbashi. On commence avec Jérémy de Lumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jordi. Bonjour également à l'invité. En tout cas, dans ces domaines, il y a à boire et à manger. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gouvernements, lui qui définit la politique de notre pays, n'est pas à même en mesure de pouvoir connaître la zone d'ombre où on est en train de dilapider l'argent de l'État qui doit, n'est-ce pas, entrer dans les trésors publics. Ça, c'est inacceptable. Je pense que même le secrétariat général de l'enseignement doit être interpellé. C'est inacceptable. Comment est-ce qu'ils ont eu à œuvrer depuis longtemps? Mais il se fait qu'il y a des enseignants fictifs, il y a des écoles fictives qui œuvrent sous les labels des soi-disant ministres de l'État. Ça, le ministre d'État, c'est inacceptable. Alors, je pense qu'il faut que l'État s'y attelle. L'IGF, concomitamment avec les CECOP, doivent se travailler ensemble, pas se travailler séparément, parce que le CECOP, c'est comme un chauffeur qui connaît déjà ce qu'il a déjà prédestiné à faire. Il connaît tout ce qu'il a eu à faire. Alors, l'IGF doit s'y atteler pour dégager qui est en train de jouer les mauvais tours de l'État et rouler l'enseignement dans les salles gras. Nous devons connaître ça et connaître les dénouements. Nous devons amener, et les enquêtes doivent aboutir pour connaître qui est réellement à la base de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, et il doit être sévèrement corrigé devant les instances de l'État, devant les instances judiciaires. C'est inacceptable dans un pays où on se lève le matin, on fait du n'importe quoi. Non.
D'accord, merci. Ministre... Merci Jérémy. Ali Tito Chiala, vous êtes à Louisa, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre question, Ali?
Oui, j'aimerais d'abord commencer par rapport à votre question. Pour lutter contre le phénomène des écoles fictives et enseignants fictifs, il faut faire un contrôle général de tous les arrêtés et les lettres d'implantation. C'est-à-dire, une école n'ayant pas un acte juridique reconnu doit être supprimée. Monsieur Jody, ici à Louisa, nous avons constaté lors du contrôle qu'il y a eu des gens qui sont venus. Mais ces mêmes arrêtés-là, c'est comme s'ils les ont falsifiés. Par exemple, un arrêté peut avoir 4 écoles, mais lorsque le gestionnaire récupère, il prend seulement l'exposé des motifs, ainsi que peut-être la conclusion. Maintenant, il glisse d'autres noms des écoles fictives dedans. Et cet acte-là, déjà, lorsque on fait ça, on est en train de supprimer, d'enlever, et ça fait des problèmes ici à Louisa. Deuxièmement, monsieur Jody, j'ai dit il faut faire un contrôle physique. Ce contrôle physique-là des enseignants et agents qui doivent présenter les pièces justificatives ou les pièces à conviction pour se rendre compte réellement qui est-ce qu'on paye. Comment vous pouvez payer les gens que vous ne connaissez pas? Comment vous pouvez payer les gens à qui vous donnez par exemple des sommes, mais vous ne vous rendez pas compte? C'est pour cela que ce contrôle ne doit pas seulement être pour les gens de Sécopé, parce qu'ils connaissent déjà leur magouille, connaissent déjà ce qu'ils font. Alors, il faut les associer avec d'autres partenaires, par exemple les syndicalistes, l'IGF aussi. Alors, vérifier à chaque mois les listings des payes pour se rendre compte en cas de modification quand on joue la marge, donc la mise à jour. Alors, j'avais des questions à poser à l'invité par rapport à ça. J'ai dit, oui. Maintenant, après le contrôle de l'IGF, qui a abouti à un procès qui a peut-être arrivé jusqu'à condamner les responsables de l'éducation, donc de l'EPST. J'ai dit, est-ce qu'il y a eu l'argent qu'on a retourné? Parce qu'on ne peut pas seulement commencer à arrêter les gens. Nous avons vécu avec le procès Caméré. On ne sent pas combien d'argent est-ce qu'on a remis. Et les autres qui étaient cités dans ces dossiers-là, donc le ministre, le secrétaire général, tout ça, jusqu'à ce niveau-là, ils sont à quel niveau? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? C'était ça, peut-être ma contribution et mes deux questions. Merci, M. Jody.
Merci, Ali. M. Godé Kaimbe, vous avez la parole.
Oui, d'abord, je voudrais donner une précision par rapport à l'intervention de M. Jacques. Il a insinué quelque chose de très important. Le directeur de Sécopé, parfois, il subit. Il y a des choses qui lui-même initient, c'est aussi des choses qu'il subit. Par exemple, dans les écoles conventionnées catholiques et d'autres conventions, où ils prennent au niveau des diocèses, ils prennent l'initiative de créer des écoles fictives. Et quand ils présentent ça à Sécopé, Sécopé valide. Parce que ça lui fait confiance aux partenaires. Et il se retrouve avec les chiffres des personnes à payer très importants. Donc, considérons que le Sécopé n'est pas seul. Voilà pourquoi nous disons qu'en dehors de Sécopé, ou le directeur de Sécopé qui doit être interpellé parce que on a pris la main dans le sac, on doit aussi interpeller les évêques et les chefs de confession religieuse qui ont facilité ou créé des écoles fictives. Parce que ça ne doit pas s'arrêter seulement aux agents de l'État. Ça doit aller jusqu'aux conventionnés qui ont créé des écoles fictives pour répondre de leurs actes devant la télévision, dire comment ils prêchent la bonne parole, et en même temps, ils sont des tricheurs. Mais ils sont prêts à pouvoir condamner les tarts qui trichent, mais tout le temps, eux aussi font des choses en police qui n'en ont pas leur qualité. Deuxièmement, je reviens à la question qui a été posée par notre ami par rapport avec le
contrôle des arrêtés falsifiés, le contrôle physique, etc.
Le contrôle physique. Et que je reviens à dire que les gens qui ont piégé l'État, ce sont les gens qui payent, qui organisent l'affaire. Si on le met à contribution pour pouvoir identifier, ils vont tromper. La meilleure façon, nous disons que la meilleure façon de régler le problème, comme Jacques l'a dit, c'est d'intégrer dans le système les personnes indépendantes, comme la société civile, qui n'est pas dedans, d'intégrer le ministère de l'intelligence et de la sécurité. Papa, si on publie la cartographie des écoles par territoire, par collectivité, par village, et si on publie la cartographie, on donne le ministère de l'Intérieur de descendre dans les écoles, identifier les enseignants et les écoles. Je crois qu'on va arriver au bout de cette tricherie. Mais si on se met à dire, IGF, allez contrôler avec les tricheurs là, on va les rouler parce qu'il ne saura pas. De manière formelle, c'est très bon. Il n'y a pas de faille. Mais quand vous entrez dedans, il faut qu'on vous dise que cette école n'existe pas. Alors pour cela, nous avons besoin de l'implication des services de sécurité. Les services de sécurité, on peut tout dire, on peut envoyer les syndicalistes, comme il a dit Jacques, il a dit à des mille-mots, les syndicalistes, généralement, quand ils vont là-bas, les ministres, au départ, on leur donne l'argent, ils vont donner la réponse, ils vont donner les résultats, on leur dit ça, c'est ça. Mais si on veut pas les services indépendants, comme les services de sécurité, qui ne sont pas concernés, je suis convaincu que à ce moment-là, et la société civile, quand je parle de la société civile, je vois les chefs coutumiers, je vois les chefs des collectivités, toutes ces personnes indépendantes, même les églises, d'autres églises indépendantes, les associer à cette action d'identification, je crois qu'on pourra, on doit faire de cette question de lutte contre la tricherie au niveau des écoles une affaire de tout le monde. Toute la population doit participer à pouvoir obtenir le changement dans le système en identifiant, en permettant à l'État d'avoir le moyen pour améliorer les conditions des enseignants, pour améliorer les conditions pour pouvoir se procurer des ouvrages pour les écoles. Sinon, l'État ne va pas créer d'autres moyens. Donc, je suis convaincu que si on y entre, beaucoup d'écoles, plus de 300 000, 400 000 personnes qui sont payées par l'État chaque mois, pourront être éladées de la liste et on aura suffisamment de moyens pour améliorer les conditions des enseignants. Quand vous parlez de l'argent qui doit être retourné, effectivement, l'État, lorsqu'il condamne quelqu'un, on l'a condamné, on le somme à rembourser. Ce monsieur doit avoir des maisons. Ce monsieur doit avoir des comptes en banque. L'État récupère les maisons, fait la compte publique pour récupérer l'argent qui a été détourné par les concernés. Encore faut-il que l'État puisse assurer que la maison appartient à ce type. Parce que le voleur, quand il prend l'argent, il s'organise pour camoufler les traces. Généralement,
il enregistre la maison au nom de sa femme ou de ses enfants.
Pardon ?
Peut-être qu'il enregistre la maison au nom de sa femme, de ses enfants ou de ses frères.
La maison au nom de l'oncle, au nom de son frère. Alors ça devient compliqué, mais néanmoins, l'État doit aussi poser la question à l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un immeuble ? Il doit poser la question à la femme. Je sais qu'une enquête judiciaire doit être entamée pour obtenir, récupérer tous les biens et les vendre. Ne prenez pas l'État comme naïf. Au niveau de la justice, lorsqu'on se condamne pour détournement, vous devez rembourser. Tous vos biens doivent être saisis. L'État suit. Donc ne prenez pas, même l'affaire des caméras, il est suspensif parce qu'un État en appel, on a suspendu l'exécution. Mais au niveau de l'appel, quand on prononce, automatiquement, on s'est saisi, déjà ces comptes sont saisis, on attend seulement que l'appel puisse se prononcer pour récupérer tous ses biens. Il va mourir pauvre, il ne faut pas rêver, il va mourir pauvre. Au moment où on va prononcer le jugement, au niveau de l'appel, on entre en exécution, on récupère tous les biens. Donc ne vous en faites pas, monsieur...
Monsieur Ali Tito de Louisa. Merci Monsieur Godé Kayembe. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL. Merci et à la prochaine.
À moi de vous remercier.
On va accueillir deux auditeurs, Esokoa de Kindu et Kachai de Kanyuka. Esokoa, bonjour.
Bonjour monsieur. Bonjour donc à tous
Esokoa, quelle est votre... Allez-y rapidement la question. Les autres attendent, on n'a plus beaucoup de temps.
Aujourd'hui, ça fait presque deux ans que je n'interviens pas dans la radio Capi, sauf que je vais réaliser quelque chose. Vous savez, c'est un problème chronique dans notre pays, surtout dans la Troisième République. Tout cela a été créé dans un désordre. Je voulais dire ceci, il faut un suivi. Hein, certains agents donc, qui quittent à Kinshasa pour faire des contrôles très sérieux. Moi, je vous parle, il y a des écoles ici à Kindu, au Maniema, qui n'a pas de banque, qui n'a pas donc de bâtiments. Les enfants étudient dans sous-soleil. Mais ces écoles-là sont payées. Donc c'est grave. Comment donc l'argent donc, de l'État sort donc en désordre comme ça, là où il n'y a pas de suivi? Je voulais que ce gouvernement-là prenne toutes choses au sérieux. Il ne faut pas laisser donc laisser comme ça. Hein. Donc nous sommes très colérés, nous sommes trop vraiment colériques avec tout ce qui se passe dans notre pays.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est une affaire provinciale ou bien nationale qui sont derrière tous ces problèmes-là. Hein? Comment nous sommes pauvres comme ça? Merci beaucoup.
Merci Esokoa. Kachai, vous êtes à Kanyuka, bonjour. Bonjour Kachai. Il n'est plus là. Jacques, vous avez la parole.
Ben, je crois que les auditeurs ne font que manifester pratiquement leur ras-le-bol.
Ali a dit tout à l'heure, il faut un contrôle des arrêtés et le contrôle physique des enseignants.
Écoutez, avant que je ne vienne sur ce plateau, je venais d'apprendre que on a entrepris l'opération de déconnecter les écoles ayant des faux arrêtés. Avant que je n'arrive ici. Qu'il y aurait une lettre adressée aux gestionnaires des écoles conventionnées pour que eux, à leur tour, répercutent le message à leurs coordonnateurs provinciaux et ainsi de suite. Et donc, le travail a peut-être commencé. Mais c'est comme nous disons, que l'administration fasse son travail, mais cette histoire-là, aujourd'hui, dépasse le cadre du seul administration parce que ça touche à l'argent des citoyens. En fait, cet argent qu'on détourne d'un agent qui ne travaille pas, on détourne l'argent, on parle d'agent fictif qui touche l'argent alors qu'il ne travaille pas, c'est l'argent, c'est mon argent à moi. Je paye les impôts pour que, à son tour, l'État nous retourne les services. Les services dans le secteur de l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures pour que les citoyens membres de la communauté nationale vivent normalement. Et donc, quand on détourne un seul franc et on dit, bon voilà, et c'est agent fictif, les gens prennent ça, agent fictif, mais c'est toute la société, c'est ton argent à toi, c'est mon argent à moi qu'on est en train de détourner, de dilapider et qui rentre dans la poche de quelqu'un qui se moque de moi alors que je suis à pied, lui il a des immeubles pour l'argent qu'il a détourné via les écoles, via ce que nous appelons aujourd'hui agent fictif, via ce que nous appelons aujourd'hui enseignant fictif. Mais écoutez,
des individus organisés en réseau. Oui.
Et je crois que ça doit faire l'affaire de tous les citoyens. Tous les citoyens doivent s'impliquer. Vous connaissez dans votre quartier, dans votre village, le nombre d'écoles qu'il y a, les écoles qui fonctionnent. Mais si on disponibilise la cartographie, ce que nous demandons à l'État, c'est de disponibiliser la cartographie des écoles, village par village, quartier par quartier, des citoyens comme nous, la coalition comme nous. Nous pouvons faire, effectivement, rendre service, par exemple, dans une commune et faire sortir, effectivement, des résultats probants. Nous, ça veut dire que les citoyens doivent s'intéresser à cette question parce que c'est leur argent qu'on est en train de détourner. Et tout le monde doit augmenter sa capacité revendicative par rapport à cette question-là. On ne doit pas laisser cette question comme ça. On ne doit pas laisser cette question au CECOP seulement. On ne doit pas laisser cette question au syndicaliste seulement. Il faut élargir parce qu'il s'agit de l'argent public, l'argent pour lequel je m'investis, tu t'investis, nous nous investissons en payant l'impôt, en payant la TVA, même quand nous payons l'eau là, il y a toujours une partie qui va dans l'impôt, ainsi de suite. Et c'est cet argent-là qu'on utilise pour payer les agents. Et ce sont nos enfants aujourd'hui qui sont pénalisés à cause de cela. Là où il y a des enseignants qui travaillent tous les jours, mais ils ne sont pas payés. Ils sont devenus démotivés parce que ils n'ont pas d'argent, alors que d'autres personnes qui ne travaillent pas prennent à leur place. Mais en fait, ce sont nos enfants qui en pâtissent parce que l'enseignant, l'éducation qui est en baisse. L'éducation est en baisse. Nos enfants ne peuvent plus faire des bons résultats parce que bon voilà, ils ont des enseignants qui commencent bien entendu à enseigner par délestage.
Ils sont démotivés.
Donc, je suis en train de sensibiliser l'opinion publique pour qu'on ne prenne pas cette question pour une simple question de détournement au niveau de l'enseignement, administration, CECOP. Ça dépasse.
C'est extrêmement grave.
C'est extrêmement grave et nous en appelons à la communauté nationale de s'impliquer pour dénoncer une école qui n'existe pas, dénoncer.
Et c'est quoi, on nous l'a dit, ben effectivement. Il connaît une école qui fonctionne à l'air libre, mais l'argent est décaissé.
L'argent sort.
Sort pour cette école-là.
L'argent sort, effectivement. Et donc, des cas comme ça, il faut absolument qu'il y ait implication. C'est pour ça que nous disons que cette affaire d'école fictive, cette affaire d'enseignant fictif, ne doit plus être traité seulement par le CECOP, qui doit faire son travail normalement, bien entendu.
Godet a dit seulement que par le CECOP pas seulement, a subi hein, les services de contrôle
le
des
CECOP
des enseignants.
Le CECOP a aussi subi, ça il faut le reconnaître. Oui. Le CECOP n'est pas seul service qui fait cela. Parce que le CECOP subit d'en bas et d'en haut. Quand un ministre signe un arrêté, tu es qui dans le CECOP pour refuser? Il y a même des ministres qui ont antidaté des arrêtés. Il y a même des arrêtés qui ont été antidatés. Pour qu'on ne dise pas que non, ils ont pris cet arrêté maintenant là. Ils ont antidaté. Mais il y a moyen de découvrir quand on est sur terrain. Parce qu'en réalité, dans une école, il y a toujours la liste de présence des enseignants qui sont là, qui viennent tous les jours. Il y a toujours moyen. Donc, en fait, quoi que l'on fasse, antidaté comme vous voulez, vous n'avez pas la capacité d'effacer toutes les traces d'écoles, d'agents qui n'existaient pas, que vous avez créés. Et c'est comme ça que nous en appelons à la communauté nationale de prendre en charge cette question. Les écoles qui sont dans nos communautés, les écoles qui sont dans les quartiers là, ce sont les écoles pour nos enfants. Ce sont les écoles pour les enfants de notre quartier. Nous devons contribuer à les améliorer.
Comment détecter une école fictive? Parce que vous avez donné un exemple. Vous êtes allé dans un quartier. C'est une maison d'habitation. On vous dit, il y a pas
d'école. C'est comme ça que nous prenons, à la CONEP, nous prenons une transparence. Publier la cartographie. Nous demandons à l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique de publier la cartographie des écoles. Ça ne doit pas être un tabou. Quand on a la cartographie des écoles,
mise à la place publique.
Mise à la place publique,
oui.
Tout le monde sait que cette école existe ou elle n'existe pas. Et de deux, en ce moment-là, même les listings qu'il y a pourront savoir. Évidemment, on pourrait, avec ces listings-là, savoir que non, voilà, écoutez, ça, cette école-là, cet agent-là n'existe pas. Mais il faut absolument faire en sorte qu'on utilise l'éthique pour recenser. C'est comme ça que nous en appelons au recensement biométrique des enseignants et des agents. Et à la rationalisation. À la rationalisation, ces deux opérations couplées pourront faire en sorte que on puisse progressivement aller vers l'assainissement du fichier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut, comme sous le coup d'une baguette magique, résoudre la situation par une enquête qui va durer un mois,
deux mois, une semaine.
Non, il faut le faire assez régulièrement. C'est un travail qui doit commencer. Mais alors, lorsqu'il y a des dérapages, il faut absolument sanctionner. Il faut absolument sanctionner parce que c'est parce qu'on n'a pas sanctionné qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui.
On a laissé la situation
pourrir.
Alors, on va accueillir deux auditeurs, Moïse de Calémi et Maître Gaston de Kinshasa. Moïse, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste de Radio Okapi, et je salue en passant tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. J'avais une préoccupation par rapport à la thématique du jour. Vous voyez aujourd'hui ce qui fait à ce que les gens puissent parler dans des ondes de la problématique des écoles fictives. Tout cela est dû aux octrois incontrôlés des arrêtés. Vous savez, lorsque un ministre signe un arrêté octroyant le pouvoir de la création d'une école sans toutefois tenir compte de la qualité de l'école, ni moins de l'emplacement de l'école, je pense que c'est ce qui cause aujourd'hui même la décadence du niveau éducatif de la République démocratique du Congo, et ça risque d'avoir des répercussions sur l'avenir de notre pays, mais c'est jeudi. Alors, par rapport à ça, moi j'avais des petites recommandations à faire. Je ne sais pas si cela pourra impacter vraiment les redressements du niveau éducatif de notre pays. Je voulais tout d'abord parler du premier point qui cadre avec la gratuité de l'enseignement. Moi je pense que les autorités éducatives congolaises ont induit notre chef d'État en erreur. Quand lui va passer aux ondes de la radio et de la télévision, dire qu'il faudrait que la gratuité de l'enseignement, bien que la Constitution le reconnaisse, que la gratuité de l'enseignement soit du niveau élémentaire jusqu'au terminal de l'école primaire, moi je pense que ça serait aussi mettre de l'huile au feu que nous avons un sérieux problème du niveau éducatif. Moi, j'aurais bien voulu que cela puisse commencer d'abord dans les niveaux élémentaires.
Bon, Moïse, la gratuité, ça c'est un autre, c'est une autre paire de manches. On aura l'occasion d'en parler.
D'accord.
Oui, on veut se focaliser beaucoup plus sur les écoles et enseignants fictifs. On va donner la parole à Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour, Maître.
Bonjour, Jody Daniel.
Voilà, quelle est votre question?
Bon, la première réaction est celle-ci. Pensez-vous que cette situation pouvait changer tant que les cadres, si je peux dire, les directeurs ou soit les inspecteurs, les cadres de la fonction publique qui font carrière sont toujours là? Parce que vous savez, cette problématique a toujours été évoquée et il y a des enquêtes qui ont toujours été menées pour que la situation change, surtout au niveau des écoles publiques. Mais jusque-là, nous constatons que la situation s'aggrave. Pensez-vous avec les mêmes autorités qui ont 20 ans de carrière, qui ont 30 ans au service, qui ont 30 ans au service et qui connaissent bien qu'il y a des agents de l'État. J'insiste, ce n'est pas seulement dans l'enseignement, c'est presque dans toute la fonction publique où l'État débourse l'argent chaque mois pour les comptes des gens, peut-être, qui n'existent pas, ou des institutions qui ne fonctionnent presque plus. Mais je trouve aussi inconcevable qu'un État puisse avoir des écoles fictives, étant donné que toutes les écoles publiques sont connues. Là, vraiment, vous n'ignorez pas, toutes les écoles publiques sont connues. Mais peut-être dans les domaines privés, où nous pouvons, parce que vous savez, ce secteur-là emploie aussi beaucoup d'enseignants et les parents envoient beaucoup d'enfants dans ces écoles-là, où on trouve n'importe qui créer une institution qui n'est même pas connue par l'État et exploite les pauvres citoyens. Mmh. Est-ce que sur ce plan-là, je pense que c'est sur ce plan-là que l'État devrait plus travailler en contrôlant qui est qui et qui fait quoi sur le terrain exactement. Ce serait une bonne chose. Parce que dans l'administration publique, je l'ai tout à fait dit, que les écoles sont connues, les écoles publiques sont connues, mais peut-être tout ce que nous connaissons dans ces écoles-là qui sont connues depuis, il y a des gens qui sont payés, peut-être qui sont morts,
oui.
Ou carrément, d'autres remplacent les autres, qui sont chassés par Mégane, soit il y a même des nouvelles unités qu'on parle actuellement, qui sont mécanisés à tout moment, peut-être que ce sont les gens qui n'existent pas. Et là, il faut de faire les contrôles, mais avec quel type de personnel? Parce que le même personnel qui ira faire les contrôles se contentera de prendre ses chèvres là-bas, ses vaches, et par conséquent, on n'aura pas un travail efficace dans le sens d'améliorer les choses.
D'accord. Monsieur Jacques Timbala.
Ben, je crois que c'est encore une solution en plus. En fait, une recommandation en plus.
Mmh.
Et c'est comme on dit, c'est en fait tout le monde qui est préoccupé. Et c'est justement le vœu que nous avons, que chaque personne, là où elle est, puisse s'intéresser à cette question qui est devenue véritablement une question d'intérêt public, qui ne se limiterait pas seulement au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Parce que c'est
tout
le monde.
On peut imaginer, on peut évaluer à combien la masse d'argent qui est dilapidée comme ça.
Ben, je ne sais pas trop, parce qu'il faut connaître effectivement le nombre de ces agents-là qui sont qu'on qualifie de fictifs. On n'a pas à ce jour le nombre exact de ces agents fictifs. On n'a pas à ce jour le nombre exact de ces écoles-là. On ne fait que découvrir et le nombre ne fait qu'augmenter.
Augmenter.
C'est dire que les opérateurs de cette opération, permettez la tautologie, changent parfois de casaque, de technique, de stratégie. Mais c'est comme on dit, on peut tout faire, les traces dans une école
restent toujours.
Restent toujours. Donc quand on veut contrôler, il y a des choses que l'on peut vérifier qu'on ne va pas changer.
Hein? Donc, il n'y a pas moyen de falsifier.
C'est des enseignants qui étaient en train de venir à l'école il y a 10 ans. Le registre de présence est là. Quand vous faites un arrêté, 5 ans après, eh bien voilà, cet enseignant-là, il ne viendra pas pour signer dans tous les registres d'appel, des registres de présence des années antérieures là. Donc c'est compliqué. C'est dire que aujourd'hui, c'est la coopération aussi bien du SECOP qui doit véritablement démontrer. Et nous apprenons d'ailleurs qu'il y a déjà un pas qui est franchi par rapport à cela. Ça veut dire que le SECOP commence à montrer sérieusement la volonté de pouvoir s'ouvrir, mais cela ne suffit pas. Quand l'on commence ce travail-là, il faut aller à fond. C'est pour ça que nous en appelons à l'ouverture pour nous. Le SECOP a toujours fait ce travail-là avec les mêmes acteurs syndicalistes qu'on envoie sur terrain. Deux fois, on les envoie sur terrain pour éviter justement qu'il y ait revendication. Comme ça, on éparpille les gens dans les provinces et puis on va fermer la bouche parce que les gens seront engraissés par des frais de mission et autres. On le fait uniquement pour faire taire. Nous ne sommes pas partisans de cette manière de faire. Cette manière de faire, on l'a fait, ça fait 28 ans. ça n'a pas porté des fruits. Au contraire, cela n'a fait que gâter le système. Je crois qu'il faut abandonner ce modus operandi-là qui ne fait que gâter les choses. Où le CECOP envoie sur terrain les syndicalistes, on connaît comment ça opère, ça s'opère.
Il y a déjà eu des condamnations. Quelle est votre réaction par rapport à
Monsieur
ça
Monsieur Jody, oui. Ça se fait à chaque la veille de chaque rentrée scolaire. On sait que quand on veut avoir la paix, il faut donner des missions aux syndicalistes qu'ils aillent sur terrain. Mmh. Eh bien, ça se fait également lorsqu'il y a des bruits tels qu'il y en a maintenant là. C'est comme ça que nous en appelons.
C'est pour le neutraliser.
Donc, c'est pour le neutraliser. Je ne mets pas de l'eau dans la bouche pour le dire. Mmh. C'est vrai qu'ils peuvent être impliqués. Je ne refuse pas qu'ils soient impliqués. Mais faire ce travail-là seul, c'est ce qui a toujours été fait et qui a donné le résultat.
Godet
qui est fait.
A proposé tout à l'heure, il faut impliquer l'ouverture. La société civile,
absolument.
Impliquer les services de sécurité.
Absolument, absolument. On veut avoir les résultats, mais aussi insister pour que le CECOP publie la cartographie
de toutes les écoles. Publique.
Que ce soit public, qu'on note dans le site que l'on voit la cartographie de toutes les écoles. Et ça permet à tous les citoyens de voir. Il n'y a rien à cacher. Mmh. C'est l'argent public. L'argent du citoyen congolais, il faut publier pour que l'on sache, publier pour que tout le monde aide l'État à maximiser et à utiliser à bon escient le peu d'argent que nous lui donnons. Nous n'en avons pas déjà beaucoup, mais le peu que nous donnons là, nous voulons voir que ça fait le travail que nous voulons.
Et il y a aujourd'hui des certains disent que c'est avec la gratuité qu'il y a eu beaucoup d'effectifs, tout ça, on a créé des divisions qui n'existaient pas.
Il n'y en a pas eu qu'avec la gratuité. Je vous ai dit que le système a commencé depuis la gratuité n'a fait que révéler la gratuité n'a fait que révéler un système moribond qui avait ancrage dans le mal. Une administration hypertrophiée qui dysfonctionnait parce qu'en réalité, on a engagé plus que le système ne demandait. Vous savez, le ratio enseignant administratif dans notre pays est de 1 à 42. C'est le plus élevé du monde.
Le plus élevé du monde.
Ça veut dire que il y a plus d'administratifs que d'enseignants dans le système éducatif. Ça ne devrait pas être comme ça. Et tout ça pourquoi? Parce que on a justement fait ce que vous venez de dire tout à l'heure. On a créé des arrêtés pour avoir des divisions qui n'ont même pas de bureau. Et j'apprends même, et j'ai des preuves, qu'il y a certaines sous-divisions qu'on a créées qui n'ont pas de bureau. Plus de 200 agents travaillent à la belle étoile. Quand vient la pluie, ils vont entrer dans les salles de classe pour s'abriter avec les élèves. Et on commence même à demander aux agents de cotiser pour construire le bureau. Ça ne se fait pas.
Donc, Monsieur Jacques Timbaland, on est arrivé à la fin.
L'importance de la rationalisation.
Votre dernier mot pour terminer cette émission.
Notre dernier mot, c'est que l'État doit ouvrir la question des enquêtes sur l'effectif école, agent, classe aux autres composantes. Ça, c'est de un. De deux, c'est que il faut absolument que les citoyens se mêlent dans cette affaire parce que c'est l'argent de l'État, c'est notre argent qu'on est en train de dilapider pour qu'on donne aux enfants et aux enseignants qui enseignent véritablement nos enfants et non aux maçons et autres pêcheurs qui ne font rien dans les salles, qui n'ont rien à voir avec dans les salles de classe.
Bien, Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, Connect, merci.
Merci à vous surtout.
À la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Jean-Claude Siala a assuré la technique. Tati Mapoukou a été à la coordination et la réalisation. Au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Tout à l'heure, vous allez suivre le journal. À la prochaine. Thank you.